L'homme invisible de Herbert George Wells, traduction de Henri David Davray. Chapitre 1er, un étrange voyageur. L'étranger arriva en février, par une matinée brumeuse, dans un tourbillon de vent et de neige. Il venait, à pied par la dune, de la station de Bramblehurst, portant de sa main couverte d'un gant épais une petite valise noire. Il était bien enveloppé des pieds à la tête, et le bord d'un chapeau de feutre mou ne laissait apercevoir de sa figure que le bout luisant de son nez. La neige s'était amoncelée sur ses épaules, sur sa poitrine. Elle ajoutait aussi une crête blanche au sac dont il était chargé. Il entra, chancelant, plus mort que vif, dans l'auberge, et posant à terre son bagage, « Du feu ! » s'écria-t-il, « du feu, par charité ! Une chambre et du feu !» Il frappa de la semelle, secoua dans le bar la neige qui le couvrait, puis suivit Madame Hall dans le petit salon pour faire ses conditions. Sans autre préambule et jetant 2 sovereigns sur la table, il s'installa dans l'auberge. Madame Hall disposa le feu et alla préparer le repas de ses propres mains. Un hôte s'arrêtant à Iping en hiver, c'était une aubaine dont on n'avait jamais entendu parler. Et encore un hôte qui ne marchandait pas. Elle était résolue à se montrer digne de sa bonne fortune. Dès que le jambon fut bien à point, dès que Millie, la lymphatique servante, eut été un peu réveillée par quelques injures adroitement choisies, l'hôtesse apporta nappe, assiette et verre dans la salle et commença de mettre le couvert avec le plus d'élégance possible. Quoique le feu brûlât vivement, elle constata, non sans surprise, que le voyageur conservait toujours son chapeau et son manteau et, regardant par la fenêtre la neige tombée dans la cour, se tenait de manière à dissimuler son visage. Ses mains, toujours gantées, étaient croisées derrière son dos. Il paraissait perdu dans ses réflexions. Elle remarqua que la neige fondue qui saupoudrait encore ses épaules tombait goutte à goutte sur le tapis. « Voulez-vous me permettre, monsieur, dit-elle, de prendre vos effets pour les mettre à sécher dans la cuisine ?»« Non, répondit l'autre sans se retourner. » N'étant pas sûre d'avoir bien entendu, elle allait répéter sa question quand il retourna la tête et, la regardant, « Je préfère les garder, » ajouta-t-il nettement. Madame Hall observa qu'il portait de grosses lunettes bleues avec des verres sur le côté à angle droit et que d'épais favoris, répandus sur le col de son vêtement, empêchaient de rien voir de ses joues ni de son visage. « Très bien, monsieur, comme il vous plaira. Dans un moment, la pièce sera plus chaude. » Il ne répliqua pas et se détourna de nouveau. Madame Hall, sentant ses avances inopportunes, acheva lestement de dresser la table et s'empressa, en trottinant, de sortir. Quand elle revint, son hôte était toujours là, debout, immobile comme une statue de pierre, faisant le gros dos, le collet relevé, le bord du chapeau rabattu et dégoûtant, la figure et les yeux complètement cachés. Elle servit d'un geste important les œufs au jambon et cria plutôt qu'elle ne dit « Votre déjeuner est prêt, monsieur. »« Merci, » répondit aussitôt l'étranger. Mais il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle eût refermé la porte sur elle. Alors seulement, il fit volte-face et s'approcha de la table avec une certaine impatience. Comme elle arrivait à la cuisine, en passant derrière le comptoir, Madame Hall entendit un bruit renouvelé à intervalles réguliers. Tac, 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 cela se répétait toujours. C'était le bruit d'une cuillère tournant dans un bol. « Ah, cette fille !» s'écria-t-elle. « Là, j'ai tout à fait oublié la moutarde. C'est sa faute. Pourquoi est-elle toujours si lente ?» Et tout en achevant elle-même de battre la moutarde, elle lança vers Millie quelques aménités sur les inconvénients de l'indolence. N'avait-elle pas de ses mains préparé les œufs et le jambon, mis le couvert et tout fait, en somme, tandis que Millie, mon Dieu, n'avait réussi qu'à l'empêcher de servir la moutarde, et cela avec un nouvel hôte qui montrait l'intention de séjourner. Alors l'hôtesse remplit le moutardier, et, le plaçant avec cérémonie sur le plateau à thé, noir et or, elle le porta dans le salon. Elle frappa et entra tout de suite. Aussitôt l'étranger fit un mouvement rapide. Elle n'eut que le temps d'entrevoir un objet blanc qui disparaissait derrière la table. Le voyageur avait l'air de ramasser quelque chose sur le parquet. Ce n'est qu'après avoir déposé son plateau qu'elle remarqua que pardessus et chapeau avaient été ôtés et placés sur une chaise devant le feu. une paire de souliers mouillés menaçait de la rouille son garde-feu en acier. Elle s'avança résolument vers cette défroque, et d'un ton qui n'admettait pas de refus, « Maintenant, sans doute, je puis prendre tout cela pour le faire sécher. »«
Laissez le chapeau !» répondit le visiteur d'une voix sourde.
En se retournant, elle vit qu'il avait levé la tête et qu'il la fixait. Pendant une minute, elle le considéra fixement, trop surprise pour dire un mot. Il tenait un linge blanc, une serviette apportée par lui, sur la partie inférieure de sa figure, de façon que sa bouche et ses mâchoires fussent complètement cachées. Cela expliquait le timbre assourdi de sa voix. Mais ce n'était pas cela qui étonnait le plus Madame Hall. En effet, tout le front du voyageur, au-dessus des lunettes bleues, était couvert d'un bandeau blanc. Un autre bandeau, appliqué sur les oreilles, ne laissait pas apercevoir le moindre bout de visage, si ce n'est un nez rouge et pointu, toujours aussi rouge et luisant que tout à l'heure à l'arrivée. L'homme portait une jaquette de velours foncé, avec un large collet noir, relevé autour du cou et laissant passer une ligne de linge. La chevelure épaisse et brune, qui s'échappait au hasard, en petite queue, en petite corne singulière, de dessous les deux bandeaux croisés, donnait à la physionomie l'aspect le plus étrange que l'on pût imaginer. Cette tête enveloppée, emmitouflée, était si différente de ce qu'avait prévu Madame Hall que celle-ci, pendant un moment, demeura pétrifiée. Lui n'écartait point sa serviette. Il continuait à la tenir sous son nez, ainsi qu'elle le voyait maintenant, d'une main gantée de marron, et de ses vers impénétrables, il la regardait. « Laissez le chapeau !» répétait-il, parlant indistinctement à travers sa serviette blanche. Les nerfs de Madame Hall commençaient à se remettre de la secousse éprouvée. Elle laissa le chapeau sur la chaise auprès du feu. « Je ne savais pas, monsieur, que... » Et elle s'arrêta tout embarrassée. Ses regards allaient alternativement d'elle à la porte. « Je vais les faire sécher tout de suite, » dit-elle en sortant de la pièce avec les vêtements. Elle lança un dernier coup d'œil vers cette tête emmaillotée de blanc, vers ses lunettes sans expression. La serviette cachait toujours la figure. Elle frissonna un peu quand elle eut fermé la porte derrière elle, et son visage exprimait bien toute sa surprise, toute sa perplexité.
« Non, jamais je n'ai, » dit-elle tout bas.
Elle retourna tout doucement à la cuisine, trop préoccupée pour demander à Milly ce que celle-ci fricotait juste à ce moment. Le voyageur s'assit et tendit l'oreille au bruit des pas qui s'éloignaient. Avec inquiétude, il regarda du côté de la fenêtre avant d'écarter sa serviette. Puis il reprit son repas. Il avala une bouchée, jeta vers la croisée un nouveau regard de méfiance, mangea une autre bouchée. Puis il se leva, et, tenant à la main sa serviette, il traversa la chambre et abaissa le store jusqu'à la hauteur du rideau de mousseline qui couvrait les carreaux du bas. La pièce fut plongée dans une demi-obscurité. Après quoi, il revint, l'air plus tranquille, à la table et au repas.
« Le pauvre homme a eu un accident, ou une opération, ou quelque chose, » se dit Madame Hall. « Mon Dieu, quelle peur il m'a faite avec tous ces bandeaux !»
Elle raviva le feu, ouvrit un chevalet et étendit dessus les vêtements de son hôte.
Et ses lunettes! À coup sûr, il avait l'air d'un scaphandrier plutôt que d'un homme ordinaire.
Elle pendit le cache-nez à un coin du support.
Et il tient tout le temps ce mouchoir sur sa bouche. Il parle à travers. Peut-être aussi a-t-il quelque chose à la bouche, qui sait?
Elle tourna sur elle-même, comme frappée d'un brusque souvenir.
« Que Dieu me bénisse !» s'écria-t-elle en changeant subitement de sujet.
« N'avez-vous pas encore fait ces pommes de terre, Milly ?» Lorsque Madame Hall vint pour desservir le déjeuner de l'étranger, elle fut confirmée dans son idée qu'il devait avoir eu la bouche blessée et déformée par un accident. En effet, il fumait une pipe, et pendant tout le temps qu'elle resta dans la pièce, il ne se sépara point pour porter le tuyau à ses lèvres du foulard de soie dont il avait enveloppé la partie inférieure de sa figure. Pourtant, ce n'était pas distraction, car elle le vit surveiller le tabac qui allait s'éteindre. Il était dans un coin, le dos tourné au store, et, ayant bien mangé et bien bu, s'étant bien réchauffé, il parlait d'un ton moins bref. Le reflet de la flamme prêtait à ses grosses lunettes une sorte de rougeoiement qu'elle n'avait pas eu jusqu'alors. « J'ai des bagages à la gare de Bramblehurst, » dit-il, et il demanda comment il pourrait se les faire envoyer.
Très poliment, il inclina sa tête emmaillotée pour remercier Madame Hall de ses explications. « Demain, dit-il, n'est-il pas possible d'avoir cela plus rapidement ?» Il parut contrarié quand elle lui répondit que non. En était-elle bien sûre ? N'y avait-il pas un homme qui voulut y aller avec une charrette ? Madame Hall, sans hésiter, lui expliqua les difficultés du pays et la conversation s'engagea. « Il y a, monsieur, une route très montante par la dune, » dit-elle pour écarter l'idée de la voiture. Puis, allant au-devant d'une confidence, une voiture y avait versé un peu plus d'un an auparavant. Un monsieur avait été tué sans compter le cocher. Les accidents, monsieur, arrivent si vite, n'est-ce pas ? Mais le visiteur n'était pas si commode à mettre en train. « Oui, en effet, » dit-il à travers son foulard, en observant tranquillement Madame Hall à l'abri de ses verres impénétrables. « Sans compter qu'il faut longtemps encore pour se rétablir, n'est-ce pas ? Tenez, mon neveu Tom, il s'est coupé au bras en jouant avec une faux, en tombant dessus dans un champ où l'on faisait les foins. Dieu me pardonne, il est resté 3 mois, monsieur, sans pouvoir rien faire. C'est à ne pas le croire. J'ai toujours, depuis lors, grand-peur des faux. » « Je comprends cela. Nous avons craint une fois qu'il n'eût à subir une opération. Il était si mal, monsieur. » Le visiteur éclata brusquement d'un rire qu'il parut réprimer et étouffer dans sa bouche. « Ah, vraiment ? » fit-il. « Oui, monsieur. » Et il n'y avait pas de quoi rire, occupé de lui comme je l'étais, parce que ma sœur avait assez de besogne avec son petit monde. Il y avait des pansements à faire, à défaire, en sorte que, si j'osais le dire, monsieur... « Voulez-vous me donner des allumettes ?» fit brusquement l'étranger. « Ma pipe est éteinte. » Madame Hall fut arrêtée net. Cela était vraiment malhonnête de la part de ce monsieur, après qu'elle venait de lui dire tout ce qu'elle avait eu d'ennui. Elle le dévisagea un moment, interloquée. Puis elle se rappela les 2 sovereigns donnés à l'arrivée, et cela fit qu'elle alla chercher des allumettes. « Merci, » fit-il, quand elle lui en apporta. Et il se détourna de nouveau pour regarder par la fenêtre. Évidemment, il était chatouilleux sur la question des opérations et des pansements. Elle n'osa plus rien dire, mais cette manière de la rudoyer l'avait irritée. Milly eut lieu de s'en apercevoir pendant l'après-midi. Le voyageur resta dans le salon jusqu'à 4 heures, sans donner à son hôtesse prétexte à y entrer. Il demeura presque continuellement immobile, sans doute assis, dans l'obscurité croissante, fumant à la lueur du foyer, ou peut-être sommeillant. Une ou deux fois, quelque oreille attentive l'aurait entendu tisonner. Après cela, pendant 5 minutes, il arpentait la pièce, il semblait se parler à lui-même. Puis le fauteuil craquait, il venait de se rasseoir. Chapitre 2. Les premières impressions de Teddy Henfrey. À 4 heures, il faisait tout à fait sombre. Au moment où Madame Hall prenait son courage à 2 mains pour aller demander à son hôte s'il désirait du thé, Teddy Henfrey, le petit horloger, entra dans le bar. « Vrai, Madame Hall, voilà un fichu temps pour des bottines légères. » La neige tombait de plus en plus fort. Madame Hall acquiesça d'un hochement de tête et remarqua que Teddy avait sa trousse avec lui. « Pendant que vous êtes là, Monsieur Teddy, je vous serai obligé de vouloir bien donner à la vieille pendule, dans le salon, un petit coup d'œil. Elle marche et elle sonne bien, mais la petite aiguille s'obstine à marquer 6 heures. » Lui montrant le chemin, elle se dirigea vers la porte du salon. Elle frappa et entra. Son hôte, elle le vit en entrant, était assis dans le fauteuil devant le feu, assoupi à ce qu'il semblait. Sa tête emmaillotée s'inclinait de côté. Pour toute lumière dans la chambre, la lueur rougeâtre qui venait du foyer. Tout était ou violemment éclairé, ou tout à fait sombre. Elle avait d'autant plus de peine à rien distinguer qu'elle venait précisément d'allumer la lampe du bar et que ses yeux étaient encore éblouis. Mais pendant une seconde, il lui parut que l'homme qu'elle regardait avait une bouche énorme, béante, une bouche invraisemblable qui mangeait tout le bas de sa figure. Ce fut une image instantanée, une tête enveloppée de blanc, de gros yeux à fleur de front, et, au-dessous, un large four. Alors il bougea, il se redressa sur son siège, il leva la main. Ayant ouvert la porte toute grande, pour que la chambre fût mieux éclairée, Madame Hall le vit plus nettement. Il tenait un foulard sur sa figure, tout comme elle l'avait vu auparavant tenir sa serviette. L'obscurité, pensa-t-elle, l'avait trompé. « Est-ce que vous voudriez bien permettre que monsieur vienne arranger l'horloge ?» dit-elle en surmontant son trouble. « Arranger l'horloge ?» répéta le voyageur, jetant autour de lui des regards endormis et parlant par-dessus sa main. Puis, tout à fait réveillé, « Mais certainement !» Madame Hall sortit pour prendre une lampe. Lui se leva et s'étira. Alors, la pièce éclairée, M. Teddy Henfrey se trouva face à face avec l'homme au bandeau. Il en fut, disait-il, tout chose. « Bonjour !» lui dit l'étranger en le fixant avec des yeux de langouste, selon l'expression pittoresque de M. Henfrey, qui désignait ainsi les lunettes au verre fumé. « J'espère, dit celui-ci, que je ne vous gêne pas. » « Non, pas du tout, répondit l'étranger. Pourtant, j'entends, et il se tournait vers Mme Hall, que cette pièce soit bien à moi, pour mon usage particulier. « Je pensais, monsieur, que vous préféreriez que l'horloge... »« Certainement, certainement. Mais, règle générale, je désire être seul et qu'on ne me dérange pas. » Il fit volte-face, les épaules à la cheminée, les mains derrière son dos. « Et maintenant, ajouta-t-il, quand la réparation sera faite, je voudrais avoir du thé. » Mais pas avant que la réparation soit terminée. Madame Hall était sur le point de sortir. Cette fois, elle n'essaya pas d'engager la conversation pour ne pas s'exposer à être rabrouvée devant M. Henfrey, lorsque le client lui demanda si elle avait pris ses dispositions au sujet des malles restées à Bramblehurst. Elle répondit qu'elle avait parlé au facteur et que le voiturier les apporterait le lendemain. Êtes-vous sûr que ce soit le moyen le plus rapide ? Elle en était sûre, elle l'affirma avec froideur. « C'est que, voyez-vous, je vais vous expliquer ce que je n'ai pu vous dire plus tôt parce que j'étais trop gelé et trop fatigué. Je suis un travailleur, un homme de laboratoire. »« Ah, vraiment, monsieur, » fit Madame Hall, très intéressée. « Et mes bagages contiennent des appareils, un matériel. »« Toutes choses bien utiles, sans doute. »« Naturellement, je suis impatient de poursuivre mes recherches. »« Naturellement, monsieur. » « Ma raison de venir à Haiping, continua-t-il d'un ton assez délibéré, était le désir de la solitude. Je tiens à n'être pas troublé dans mon travail. En plus, d'ailleurs, de mon travail, un accident qui m'est arrivé, je le pensais bien, se dit Madame Hall, exige une certaine retraite. Mes yeux sont quelquefois si affaiblis et si douloureux que je dois m'enfermer dans l'obscurité des heures entières, m'enfermer à clé. Cela de temps à autre. Pas pour le quart d'heure, toutefois. » À ces moments-là, le moindre dérangement, par exemple l'entrée de quelqu'un dans ma chambre, est pour moi une cause de véritable torture. Il est bon que cela soit entendu. Parfaitement, monsieur. Si j'osais me permettre de demander, c'est bien tout, je crois, dit l'étranger, de ce ton tranquille et sans réplique, qu'il savait prendre pour couper court aux interrogations. Madame Hall dut garder sa question et sa pitié pour une circonstance meilleure. Quand elle eut quitté la pièce, il resta debout devant le foyer, attentif, M. Henfrey le rapporta, à la réparation de l'horloge. M. Henfrey travaillait, une lampe posée tout près de lui. L'abat-jour vert jetait une lumière plus vive sur ses mains, sur le cadran et sur les petites roues de l'horloge, laissant dans l'ombre le reste du salon. Lorsqu'il leva la tête, sa vue d'abord fut troublée par les reflets colorés. Curieux de sa nature, il avait démonté les pièces, chose parfaitement inutile, avec l'idée de retarder son départ et d'arriver ainsi peut-être à engager la conversation avec l'étranger. Mais celui-ci demeurait silencieux et immobile. Si bien immobile que cela finit par agacer Henfrey. Il eut l'impression d'être seul et regarda. Grise et peu éclairée, se dressait l'énorme tête à bandeau qu'il examinait avec ses grosses lunettes sombres, obscurcies d'une buée verdâtre. Cela devint pour Henfrey si insupportable que, pendant une minute, ils demeurèrent tous deux à se considérer d'un air confus. Puis Henfrey baissa les yeux. Situation vraiment bien gênante. Il eût aimé à dire quelque chose. Convenait-il de faire observer que le temps était bien froid pour la saison ? Il se redressa pour choisir l'instant de placer cette remarque. « Le temps, commença-t-il. Pourquoi ne terminez-vous pas et ne partez-vous pas ? » dit la figure rigide, évidemment en proie à une fureur difficilement contenue. Tout ce que vous êtes parvenu à faire, c'est de resserrer l'aiguille sur le cadran. Vous vous moquez du monde. Bien, monsieur, une seule minute encore. Je revoyais avec soin. Monsieur Henfrey finit sa besogne et s'en alla. Mais il s'en alla extrêmement contrarié. « Sacrebleu !» se disait-il en traversant à pied le village au milieu de la rafale de neige. « Il y a des fois où il faut bien arranger une horloge tout de même. » « Puis, un homme n'a-t-il donc pas le droit de vous regarder ? Vilain singe !» Et encore, « Non, à ce qu'il paraît. La police serait à ses trousses qu'il ne serait pas mieux enveloppé, mieux entortillé. » Au coin de la rue, devant chez Gleason, il vit Hall qui avait depuis peu épousé la patronne de l'auberge et qui maintenant conduisait la voiture à volonté d'Iping à l'embranchement de Cedar Bridge quand par hasard quelqu'un en avait besoin. Hall se dirigeait vers lui, revenant de la gare. À n'en pas douter, il s'était arrêté un brin à Cedar Bridge. Il suffisait pour en être sûr de le voir conduire. « Comment va ? » demanda-t-il en passant. « Ah, vous avez chez vous un drôle de corps !» Hall, sans se faire prier, arrêta son cheval. « Quoi donc ? Un client qui a l'air bien original est descendu chez vous, mon vieux. » Et Teddy commença de faire à Hall une description pittoresque de l'hôte bizarre de sa femme. « Il a un peu l'air d'un déguisé. Moi, je tiendrais à voir la figure d'un homme, si j'avais à le loger dans mon établissement. Mais les femmes sont si pleines de confiance dès qu'il s'agit d'étrangers. Hall, il s'est installé chez vous, et il n'a même pas encore donné de nom. « Vraiment ?» répondit Hall, qui avait l'intelligence plutôt paresseuse. « Parfaitement, » reprit Teddy. « Il a loué à la semaine, et vous ne serez pas débarrassé de lui avant 8 jours. Et il traîne un tas de bagages qui arriveront demain, à ce qu'il dit. Espérons, Hall, que ce ne sont pas seulement des caisses remplies de cailloux. » Il raconta comment sa tente, à Hastings, avait été refaite par un étranger dont les valises étaient vides. Bref, il laissa Hall vaguement inquiet. « Hue donc !» fit celui-ci. « Il faut que j'y aille voir. » Teddy poursuivit sa route, l'esprit tout à fait soulagé. Au lieu d'y aller voir, Hall, à son retour chez lui, fut sévèrement attrapé par sa femme pour le temps qu'il avait passé à Cedar Bridge. Ses questions timides furent accueillies avec aigreur, sans qu'elle répondît à l'objet de ses préoccupations. Mais, en dépit des rebuffades, la graine de méfiance semée par Teddy germait dans sa cervelle. « Vous ne savez pas tout, vous autres femmes, » dit M. Hall, résolu à être renseigné le plus tôt possible sur la qualité de son hôte. Dès que l'étranger fut couché, vers 9h30, M. Hall entra, l'air agressif, dans le salon, et il examina d'un œil soupçonneux le mobilier de sa femme pour bien affirmer que l'étranger n'était pas maître dans la place. Il reluqua, non sans un peu de mépris, une feuille d'opération mathématique oubliée par l'autre. En se retirant, il recommanda à Madame Hall de veiller de très près aux bagages quand ils arriveraient le lendemain. « Occupez-vous de vos affaires, Hall, » répliqua celle-ci. « Moi, je m'occuperai des miennes. » Elle était d'autant plus portée à quereller son mari que l'étranger était évidemment un voyageur extraordinaire et que, au fond, elle ne se trouvait pas du tout rassurée sur son compte. Au milieu de la nuit, elle s'éveilla en sursaut, rêvant de grosses têtes, blanches comme des navets, montées sur des coups sans fin, avec de gros yeux noirs qui s'avançaient vers elle en rampant. Mais, femme de bon sens, elle maîtrisa cette terreur, se retourna et se rendormit. Chapitre 3. Les 1001 bouteilles. C'est le 29 février, au commencement du dégel, que le singulier personnage était tombé des nues à Iping. Le lendemain, on apporta ses bagages à travers la neige fondue. C'étaient des bagages bien remarquables. Il y avait 2 malles, telles que le premier venu peut en posséder. Mais, en outre, il y avait une caisse de livres gros et lourds, dont quelques-uns couverts d'un grimoire manuscrit incompréhensible, et une douzaine ou plus de mannes, de boîtes, de coffres contenant certains objets enveloppés dans de la paille, des bouteilles de verre, à ce qu'il parut à Hall, lequel, curieux, arrachait la paille comme par hasard. L'étranger, bien emmitouflé, avec son chapeau, son pardessus, ses gants, son cache-nez, avait manifesté l'intention d'aller au-devant de Fearnside et de sa voiture, tandis que Hall, cherchant l'occasion d'offrir son aide, risquait quelques mots de bavardage. Il sortit sans prendre garde au chien de Fearnside, qui flairait en amateur les jambes de Hall. « Allez, arrivez donc avec ces caisses, vous m'avez assez fait attendre !» Et il descendit le perron, se dirigeant vers l'arrière du chariot, comme pour mettre la main sur la malle la plus petite. Le chien de Fearnside ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se hérissa et se prit à grogner d'une manière farouche. L'autre avait à peine fait les premiers pas que l'animal sauta d'abord d'une façon inquiétante, puis s'élança bientôt sur la main. « Oust !» cria Hall en reculant, car il n'était pas brave. Fearnside hurla « Allez coucher !» et prit son fouet. Tous deux virent les dents du chien effleurer la main. La bête exécuta un saut de côté et saisit la jambe de l'étranger. Le pantalon se déchira avec un bruit sec. Alors la fine pointe du fouet de Fearnside atteignit le coupable, et celui-ci, aboyant de peur, se réfugia sous la voiture. Cela fut l'affaire d'une demi-minute. Personne n'avait parlé, tout le monde avait crié. L'étranger jeta un coup d'œil sur son gant déchiré, sur sa jambe, fit comme s'il voulait se baisser, puis se redressa brusquement et franchit le perron pour rentrer dans l'auberge. On l'entendit traverser précipitamment le corridor et grimper jusqu'à sa chambre, l'escalier sans tapis. « Ah, la sale bête !» fit Fearnside, sautant de sa voiture avec son fouet à la main, tandis que le chien, sous la voiture, le suivait de regard. « Ici ! Ici !» Hall était resté bouche béante. « Il aura été mordu, dit-il. Je ferai bien d'y aller moi-même. » Il suivit l'étranger. Dans le couloir, il rencontra Madame Hall et lui apprit le méfait du chien. Il monta rapidement l'escalier. La porte du voyageur étant entrebâillée, il la poussa, l'ouvrit et entra sans cérémonie. La nature l'avait fait d'humeur familière. Le store baissé, la pièce était sombre. Il ne fit qu'apercevoir une chose tout à fait singulière, comme un bras sans main s'agitant dans sa direction, et une figure à peine indiquée par trois gros points noirs sur du blanc, pareil aux taches marquées sur une pensée jaune. En même temps, il recevait un coup violent à la poitrine. Il était rejeté en arrière, la porte lui retombait sur le nez, la clé tournait dans la serrure. Tout cela fut si rapide qu'il ne put rien distinguer. Des formes vagues en mouvement, une poussée, un choc, rien de plus. Il resta abasourdi sur le palier obscur, se demandant avec terreur ce qui s'était passé. 2 minutes, et il rejoignit le petit groupe qui s'était réuni devant la maison. Il y avait là Fearnside, racontant pour la seconde fois l'incident du chien. Il y avait là Madame Hall, se plaignant que ce chien mordît ses voyageurs. Il y avait là, en curieux, Huxter, le boutiquier d'en face, et, en arbitre, Sandy Watchers qui venait de sa forge. Puis des femmes et des enfants, tous parlant à tort et à travers. « Je ne me laisserai pas mordre, moi, je vous en réponds. Il devrait être défendu d'avoir de pareils animaux. Pourquoi l'a-t-il mordu ? Et le reste à l'avenant ?» M. Hall, qui les examinait et les écoutait du perron, n'était plus sûr maintenant d'avoir vu là-haut quelque chose de si étrange. D'ailleurs, son vocabulaire était trop limité pour lui permettre de traduire ses impressions. « Il prétend n'avoir besoin de personne, » répondit-il à une question de sa femme. « Il vaudrait mieux rentrer ses bagages à l'intérieur. » « Il aurait dû cautériser la plaie immédiatement, » prononça M. Huxter, « surtout si elle est à vif. »« Moi, je tuerai la bête. Voilà ce que je ferai, » dit une femme dans le groupe. Tout à coup, le chien se mit à grogner de nouveau. « Venez donc, allons !» cria sous la porte une voix courroucée. L'inconnu était là, bien enveloppé, le col relevé, le bord du chapeau rabattu sur les yeux. « Plus vite vous aurez rentré tout cela, plus je serai content. » Il est établi par le témoignage universel qu'il avait changé de pantalon et de gants. « Êtes-vous blessé, monsieur ?» demanda Fearnside. « Je suis tout à fait désolé que cet animal... »« Non, pas du tout. Il ne m'a pas entamé la peau. Allons, vite, dépêchez-vous. » Puis il grommela quelque chose, affirma M. Hall. Dès que la première manne eut été, conformément à ses ordres, apportée dans le salon, l'étranger se jeta dessus avec une ardeur incroyable et en commença le déballage, éparpillant la paille, sans égard pour le tapis de Madame Hall. Il en tira des bouteilles petites et ventrues contenant des poudres, des bouteilles petites et longues contenant des liquides colorés ou incolores, des bouteilles clissées en verre bleu étiquetées « poison », des bouteilles à panse ronde et à col élancé, d'énormes bouteilles en verre vert, d'énormes bouteilles en verre blanc, des bouteilles avec des bouchons de cristal et des étiquettes, des bouteilles avec des bouchons de liège, des bouteilles avec des bondes, des bouteilles à chape de bois, des bouteilles à vin, des bouteilles à huile, etc. Il les mettait en rang sur le chiffonnier, sur la cheminée, sur la table devant la fenêtre, sur le parquet, sur les rayons à livres, partout, partout. le pharmacien de Bramblehurst n'aurait pu se vanter d'en posséder autant dans sa boutique. C'était une vraie curiosité. Les mânes, les unes après les autres, produisaient toujours des bouteilles. Enfin, quand tout cela fut vidé, la paille d'emballage montait à la hauteur de la table. Les seules choses qui sortirent de là, avec des bouteilles, ce furent un grand nombre d'épouvettes, de tubes et une balance soigneusement empaquetée. Le contenu de ces paniers n'était pas plutôt déballé que l'étranger vint à la fenêtre et se mit à l'ouvrage, sans prendre souci le moins du monde, ni de la paille sur laquelle il marchait, ni du feu qui était éteint, ni de la caisse de livres, ni des malles que l'on avait aussi montées. Quand Madame Hall lui apporta son dîner, il était déjà absorbé par son travail et occupé à verser dans des tubes quelques gouttes de ses bouteilles. Il l'entendit seulement après qu'elle eut balayé le plus gros et posé le plateau sur la table, non peut-être sans quelque mauvaise humeur causée par l'état dans lequel elle voyait son plancher. À ce moment, il remua la tête et tout aussitôt se retourna. Elle vit du moins qu'il avait ôté ses lunettes. Elles étaient à côté de lui sur la table. Il lui sembla que ses orbites étaient singulièrement creuses. Il reprit ses verres, pivota et lui fit face. Elle allait se plaindre de la paille qui jonchait le plancher lorsqu'il la devança. « Je vous prie de ne jamais entrer sans frapper, » lui dit-il avec une exaspération anormale qui paraissait chez lui caractéristique. « J'ai frappé, et probablement que... peut-être bien, mais dans mes recherches, des recherches vraiment très urgentes et très importantes, le plus léger trouble, le bruit d'une porte, je suis obligé de vous demander... « Parfaitement, monsieur. S'il en est ainsi, vous pouvez fermer à clé, n'est-ce pas? Quelquefois... »« Bonne idée, » répliqua l'étranger. « Cette paille, si j'osais observer... »« Inutile. Si cette paille vous gêne, portez-la sur la note. » Et il murmura quelque chose entre ses dents. Des mots suspects comme des malédictions. Il était là, debout, si bizarre, si agressif, une bouteille dans une main, un tube dans l'autre, que Madame Hall eut une sorte d'inquiétude. Mais c'était une femme résolue. « En ce cas, je désirerais savoir, monsieur, à combien vous estimez ? Un shilling, mettez un shilling. C'est assez, n'est-ce pas, un shilling ? Soit, » dit Madame Hall, prenant la nappe et commençant à l'étendre sur la table. Il s'assit, le dos tourné, ne montrant plus que le col de son paletot. Il travailla jusqu'au soir, la porte fermée à clé, et, ainsi qu'en témoigna Madame Hall, silencieusement, presque tout le temps. Une fois pourtant, il y eut un choc de bouteilles heurtées les unes contre les autres, comme si la table avait été bousculée, suivi d'un fracas de verre brisé sur le plancher, puis des pas à travers la chambre. Craignant quelque malheur, Madame Hall vint écouter à la porte sans oser frapper. « Je ne peux pas continuer, » répétait-il avec désespoir. « Non, je ne peux pas continuer. 300 000, 400 000, c'est l'infini. Voler, cela peut me prendre toute ma vie. Patience, patience donc, insensé, insensé. » On entendait en bas, dans le bar, un grand bruit de souliers à clous, et bien à contre-cœur, Madame Hall finit par renoncer à la suite de ce soliloque. Quand elle revint, la chambre était de nouveau silencieuse, moins le léger craquement du fauteuil et parfois le choc d'une bouteille. Tout était fini, l'étranger avait repris son travail. En lui apportant le thé, elle vit des éclats de verre dans un coin, sous le miroir à barbe, et une tache dorée qui avait été sommairement essuyée. Elle la fit remarquer. « Portez-la sur la note, » répondit aigrement le voyageur. « Pour l'amour de Dieu, ne m'ennuyez point. S'il y a quelques dégâts, vous l'ajouterez sur la note. » Et il se remit à consulter une liste dans le cahier ouvert devant lui. « Je vais vous dire une chose, » annonça Fearnside d'un petit air mystérieux. L'après-midi s'avançait et l'on se trouvait dans le petit débit de bière d'Iping. « Hein ?» fit Teddy Henry. « Ce gaillard dont vous me parlez, que mon chien a mordu, eh bien, c'est un nègre. Du moins, ses jambes sont noires. J'ai vu cela à travers la déchirure de son pantalon, comme à travers la déchirure de son gant. Vous vous seriez attendu, n'est-ce pas, à voir quelque chose de rose? Eh bien, pas du tout. Tout à fait noir. Je vous affirme qu'il est aussi noir que mon chapeau. Parbleu, s'écria Henry, c'est un cas étrange tout de même. Pourquoi donc son nez est-il aussi rosé que s'il était peint? C'est exact, répliqua Fearnside. Je le reconnais. Mais je dis ce que je pense. Cet homme est un homme pie, Teddy. noir ici et blanc là par tache. Et il en est honteux. C'est une espèce de métis. La couleur lui est venue par plaque au lieu d'être fondue. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est d'ailleurs ce qui arrive communément pour les chevaux, comme chacun sait.